Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabier. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le nez cassé et des souvenirs d'horreur. Un policier de la BAC parle publiquement pour la première fois depuis son passage à tabac par 5 adolescents. C'était en septembre à Tourcoing. Il témoigne en exclusivité sur RMC. La France veut inscrire les gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes. Le bras armé du régime accusé d'avoir orchestré la répression sanglante dans le pays. Et puis la soirée a viré au cauchemar pour Marseille et éliminé en Ligue des Champions par un but de Benfica. Ça passe par contre pour le PSG, direction les barrages, après être sorti du top 8.
La vidéo de son agression avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux il y a 5 mois. Un policier de la BAC sort du silence aujourd'hui.
Et c'est sur RMC qu'il témoigne en exclusivité pour la première fois. Louis, policier de la brigade anticriminalité, intervenu à Tourcoing près de Lille pour un vol de trottinette début septembre lorsqu'il a été roué de coups par 5 adolescents désormais mis en examen. Julie Brault, service police-justice d'RMC, c'est vous qui l'avez rencontré. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Un homme de 52 ans qui n'a toujours pas repris le travail.
Oui, Louis est policier depuis 27 ans. Pourtant, il a encore aujourd'hui la gorge qui se serre quand il se souvient de ce déferlement de violence. Ce jour-là, ce fonctionnaire de la BAC vient au secours d'un adolescent qui se fait voler sa trottinette par un groupe de jeunes. Le policier plaque l'un d'entre eux au sol pour l'interpeller. C'est là que le reste du groupe se jette sur lui pour le rouer de coups, lui laissant de lourdes séquelles.
Nez cassé, déformé, j'ai des ligaments déchirés au niveau de l'épaule, donc je dois subir une chirurgie, et psychologique aussi, hein. C'est très difficile de pas l'oublier à sa vie. Donc l'agression m'a fait beaucoup réfléchir sur mon avenir professionnel. J'ai pas envie de rentrer en miettes.
Ces agresseurs, âgés de 15 à 19 ans, sont depuis mis en examen. Des jeunes chez qui il dit aujourd'hui percevoir une violence de plus en plus extrême, nourrie par un sentiment de toute puissance.
Aujourd'hui, mes agresseurs sont en prison. Enfin, un des agresseurs est en prison, le deuxième est en maison de correction. Et quand bien même, la prison ne fait plus peur. Donc si la prison ne fait plus peur, le policier ne fait plus peur, mais non, c'est la violence. J'ai l'impression de voir la violence partout. Je pense qu'un policier, c'est le défouloir de la France, oui. Aujourd'hui, on a peur de dire qu'on est policier.
En 2024, 17 policiers par jour en moyenne ont été agressés physiquement selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui a augmenté de 13% par rapport à l'année précédente.
Un témoignage exclusif que vous avez donc recueilli, Julie Brault, du service police-justice d'RMC.
Et ne manquez pas, à 7h40 ce matin dans ce studio, le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale sera avec nous. Mais j'attends surtout vos témoignages au 32-16. Vous êtes peut-être vous-même policier ou gendarme. Venez réagir au témoignage que l'on vient d'entendre. Je vous attends au 32-16.
L'Iran a le doigt sur la gâchette. Le chef de la diplomatie iranienne répond à Donald Trump et promet sur X que son pays est prêt à répondre à toute attaque américaine. Le président américain assure lui que le temps est compté pour Téhéran. Et de son côté, la France est favorable pour inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes, liste qui doit être validée à Bruxelles aujourd'hui et qui pourrait donc sanctionner le bras armé du régime, Romain Houg.
C'est une armée parallèle composée de 180 000 hommes et dont la mission originelle est de faire respecter le régime théocratique et autoritaire de l'ayatollah Khomeini. Mais avec les années, ce corps s'est implanté partout dans la société, analyse Sébastien Regnault, spécialiste de l'Iran.
Il contrôle désormais 60-70% de l'économie nationale iranienne. Ils sont implantés un petit peu dans toutes les administrations, dans tous les ministères et dans les banques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le corps des gardiens de la révolution islamique, en fait, contrôle l'ensemble de l'État iranien.
L'inscription sur cette liste européenne des organisations terroristes aurait, selon lui, plusieurs objectifs.
Essayer d'asphyxier au maximum la dimension économique et industrielle de cette organisation. Et le jour où il va falloir rouvrir des négociations, ça va permettre à l'Europe de disposer d'un levier politique pour obtenir, en échange de la sortie de ce corps de la liste des organisations terroristes, des engagements du côté iranien.
Mais son impact restera limité, estime ce chercheur. L'essentiel des avoirs et des intérêts iraniens ne se trouve pas aujourd'hui sur le sol européen.
Aux États-Unis, les deux policiers de l'ICE impliqués dans la mort d'Alex Pretty à Minneapolis ont été suspendus. Un manifestant de 37 ans tué samedi de 10 coups de feu par deux agents de cette police de l'immigration très décriée. Leur suspension fait partie de la procédure standard, assure un porte-parole de cette police.
RMC 7h05. Ça y est, au Havre, Édouard Philippe est officiellement candidat à sa réélection.
L'ancien Premier ministre, aussi candidat à la présidentielle, l'a annoncé hier des municipales qui ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Et une question commence à se poser. L'intelligence artificielle va-t-elle pourrir la campagne? Peut-être déjà celle de la mairie de Toulouse. En tout cas, après cette polémique, l'adjoint au maire a publié une photo truquée contre ses opposants dans laquelle on voit le candidat insoumis et celui de Lyon de la gauche main dans la main, alors qu'aucun accord n'existe entre eux. Jean-Wilfried Forquès, la gauche dénonce des fake news et une dérive.
C'est Jean-Jacques Bolzan, un colistier du maire actuel, qui a publié cette photo sur ses réseaux sociaux. Les deux candidats, PS et LFI, main dans la main. Une photo truquée grâce à l'intelligence artificielle.
C'est une maladresse, je reconnais mon erreur, liée à l'IA. Pour autant, François Briançon cache aux Toulousains son intention de s'allier à la France insoumise. Et nous ne souhaitons pas voir les mélanchonistes au Capitole.
Entièrement faux, rétorque très en colère le candidat socialiste François Briançon, qui dénonce une grave dérive de la part de ses adversaires.
C'est du Trump sur Garonne, hein. C'est les méthodes qu'on dénonce. C'est des fake news en permanence. On raconte n'importe quoi sur des tracts. Et aujourd'hui, le pas supplémentaire, c'est cette photo truquée.
De manière générale, l'arrivée de l'IA dans le débat politique inquiète les Toulousains.
C'est très anxiogène. Le sujet politique est très discrédité et l'IA ne peut que renforcer ce désamour que nous avons vis-à-vis de la politique.
Alors que ce qu'on cherche, je pense, dans toutes ces campagnes, c'est surtout avoir la vérité et une vraie forme de sincérité, en fait.
Sur la photo fabriquée par l'IA, le candidat socialiste, qui avait 6 doigts et 1 main, envisage de porter plainte pour diffamation et dénonce une atteinte à son image.
Le reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès pour RMC.
Et puis la soirée a tourné au fiasco pour Marseille en Ligue des Champions.
Surclassé par Bruges, 3-0, mais l'OM pouvait espérer malgré tout une qualification en barrage. C'était sans compter sur ce but totalement improbable dans un autre match. But du gardien de Benfica contre le Real Madrid qui a éliminé d'office les Marseillais. Une honte pour Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'OM, qui attend des excuses de la part des joueurs. Monaco, de son côté, file direction les barrages grâce à son match nul contre la Juventus, comme le PSG qui rate le top 8 après son nul 1-1 contre Newcastle. Grosse désillusion, une de plus pour les Parisiens, Valentin Jamin.
Oui, sur le terrain, après le match, les joueurs parisiens ont le visage fermé, presque comme s'ils avaient perdu. Un PSG en manque d'inspiration. Sans s'inquiéter, le milieu João Neves avoue sa frustration.
C'est pas de déception, c'est triste parce qu'on voudrait gagner le match. On doit utiliser le prochain match de la Champions League pour améliorer notre jeu. Les dernières années, on était dans cette situation. On a fini les Champions League vainqueur.
Paris, vainqueur de Barcelone ou Tottenham, qui avait toujours été dans le top 8 jusqu'à ce soir, malgré un calendrier corsé, vient de prendre seulement 2 points sur 9 possibles. Mais ce parcours peut aider son équipe, estime l'entraîneur Luis Enrique.
S'il y a une équipe prête pour les barrages, c'est nous. Je pense qu'on peut améliorer beaucoup de choses, qu'on peut jouer beaucoup meilleur, on peut avoir meilleurs résultats, c'est clair. Ce que c'est positif pour moi, c'est que quand tu joues tous les temps contre équipes de très haut niveau, tu es prêt pour les barrages.
Et ce sera donc mi-février contre Monaco ou les Azerbaïdjanais de Karabagh. Le tirage au sort aura lieu demain.
Et puis les Bleus du Hand rentrent bredouille, éliminés de l'Euro aux portes du dernier carré. Défaite contre l'Allemagne 34-38.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h08 sur RMC. Vous l'avez entendu, ce témoignage de ce policier qui avait été roué de coups par des mineurs. Et Vincent, vous vouliez réagir. Vous nous avez appelé au 32-16 depuis le Tarn-et-Garonne. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour Pauline.
Vous-même, vous êtes pompier volontaire et vous vous retrouvez parfois aux côtés des policiers ou des gendarmes.
Oui, bonjour, oui, c'est effectivement souvent on se retrouve avec les gendarmes en intervention et c'est souvent qu'il y a des insultes envers la gendarmerie ou les polices municipales.
Vous le constatez ça autour de vous ou alors quand vous êtes en intervention? Ah, je vous entends plus malheureusement Vincent. Vincent, donc pompier volontaire à Montaigu de Quercy dans le Tarn-et-Garonne, on vous entendra peut-être tout à l'heure. Vous vouliez apporter en tout cas votre soutien aux policiers et rendez-vous à 7h40 tout à l'heure avec le patron d'Alliance Police Nationale. La France est contre les entreprises, c'est ce que dit le patron d'LVMH Bernard Arnault hier. Et pourtant, les entreprises étrangères, elles sont au rendez-vous, elles continuent d'investir chez nous. Bonjour Pascal Cagny, vous êtes le président de Business France, c'est la porte d'entrée des entreprises étrangères en France. et vous nous l'annoncez ce matin. Elles continuent à investir, elles investissent même plus cette année encore que l'année d'avant. Comment expliquer ce paradoxe? Les investisseurs étrangers qui ont confiance dans notre pays, peut-être même plus que nos propres entrepreneurs. Votre parti pris, vous nous le donnez dans un instant. Il est 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Une bonne nouvelle ce matin. Cocorico, la France reste un pays attractif. Je vous avoue que j'avais peine à croire cette information, mais vous nous la confirmez ce matin. Pascal Cagny, bonjour. Vous êtes le président de Business France. C'est l'agence qui est chargée des investissements étrangers dans notre pays. Les entrepreneurs français n'arrêtent pas de se plaindre, mais les entrepreneurs étrangers nous choisissent. Plus 2% d'investissements d'entreprises étrangères l'an dernier en France, malgré l'incertitude politique, malgré le climat parfois morose. Comment vous expliquez ce succès?
Je pense que c'est une fois encore un paradoxe français, un paradoxe où les investisseurs étrangers découvrent, recouvrent et surtout comprennent les atouts particuliers de la France. Quels sont-ils? Ils sont un réseau ferroviaire, autoroutier, aéroportuaire de meilleure qualité. C'est la possibilité d'avoir l'Internet jusqu'au dernier kilomètre. C'est des talents qui sont réels, reconnus, illustré par un prix Nobel de manière un petit peu régulière chaque année. Et c'est aussi fondamentalement le fait que nous sommes géographiquement la meilleure base pour pouvoir aller conquérir le marché de plus de 350 millions d'Européens.
Ça se passe où? C'est-à-dire que notamment, semble-t-il, les territoires. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas à Paris ou dans les grandes villes, ils investissent aussi dans des villes de 20 000 habitants.
Ils investissent partout, mais ce qui est intéressant, c'est que plus de 44% de ces investissements sont liés à des investissements industriels. C'est l'industrie dont on déplore souvent qu'elle n'existe plus en France. Et plus de 60% de ces investissements sont dans des villes de moins de 20 000 habitants.
Lesquelles, par exemple?
Et c'est, par exemple, l'affaire Cyberdard dans l'Orne. Ça va être à Orléans, où vous allez pouvoir voir Mars, qui investit plus de 100 millions de dollars. Et je vous parle pas simplement de l'informatique, c'est-à-dire les centres, ou MGX, qui met un campus de près de 8 milliards près de Melun, sur l'île de France, grâce au remarquable travail de la région Île-de-France. Donc, c'est partout sur le territoire. C'est à Angers, où moi-même, j'ai créé plusieurs emplois il y a une dizaine d'années. Et donc, tout ça pour dire que la beauté de nos investissements étrangers, c'est qu'ils vont et ils irriguent le territoire. Pourquoi? Parce que, une fois encore, on a des atouts rares. C'est finalement, si vous y réfléchissez bien, un endroit incroyablement bien positionné, avec deux façades sur la mer, la Méditerranée, l'Atlantique, des réseaux, des talents, de l'informatique qui fonctionne. Ce pays fonctionne.
Ça console. Et franchement, ça console un petit peu, parce que pourtant, dans le même temps, les patrons français, alors vous avez entendu évidemment le très symptomatique Bernard Arnault, le patron d'LVMH, qui dit que la France est un pays qui est contre les entreprises, qui créent même du chômage. Est-ce que lui aussi a raison malgré tout, malgré ses investissements?
Je crois que pour moi qui suis en charge avec cette très belle agence Business France, qui je vous rappelle, à la fois aide près de 12 000 entreprises à exporter et donc assure une croissance forte du chiffre d'affaires par l'export des entreprises françaises, mais qui s'occupe aussi à la faveur de Choose France de l'investissement et qu'on iconise par ce biais-là, c'est surtout vouloir souligner qu'il y a un manque de stabilité. Vous savez, quand vous êtes investisseur et que vous investissez sur plusieurs décennies, c'est ce dont on parle, il faut avoir une forme de stabilité. Et ce que souligne Bernard Arnault, c'est effectivement ce manque de stabilité. Et je peux pas commenter sur l'entreprise. On sait, vous et moi, que les débats parlementaires n'ont pas été très intéressants. Mais moi qui reviens d'Avos, je peux vous dire par exemple que les dirigeants américains, qui généralement sont extrêmement arrogants, nous regardent de haut, et bien là, à la faveur de cette arrogance incroyable de l'administration Trump, ont une forme d'humilité et reconnaissent qu'on va devoir continuer à faire des affaires, quels que soient les tarifs, quelles que soient les rétorsions, quelles que soient les coercitions qui sont en place. Donc je crois qu'on a là un atout rare, unique, qu'il faut continuer à jouer, et ça fait plus de 8 ans, ma chère Apolline, que nous sommes le pays le plus attractif. Ce n'est pas arrivé en 3 ou 4 décennies.
Et le plus étonnant, c'est que ça continue. 315 nouvelles entreprises donc étrangères qui ont investi l'an dernier en France, ces villes moyennes, donc en particulier que vous citiez à l'instant, et les États-Unis qui, effectivement, malgré les échanges très musclés autour des droits de douane, les États-Unis qui sont encore le premier pourvoyeur d'emplois de ces emplois étrangers, avec un quart de ces emplois recensés. Ça reste donc un partenaire indispensable. Il faut absolument maintenir, tenir les droits de douane quand même de part et d'autre.
Moins pour autant de l'Europe, qui fait 60-70% des investissements, qui reste évidemment à cause de la proximité géographique de notre plus grand partenaire. Ce sont un partenaire indispensable, et c'est très intéressant qu'il soit au même niveau que l'année dernière, guerre ou même en croissance. Parce que imaginez que même l'administration Biden a mis plus de 400 milliards de dollars d'incitation en subventions et autres pour venir chez eux.
Oui, en fait,
et que...
eux, pour le coup, ils ont leur agence business qui est de l'autre côté et qui fait tout pour essayer d'attirer nos entreprises, notamment européennes.
De réduction d'impôts, l'inverse de ce que l'on fait en Europe. Et malgré cela, il continue à démontrer notre confiance dans nos talents et notre...
Vous aviez été le patron d'Apple en France. Le fait d'avoir été un patron justement d'une entreprise américaine en France, quand vous voyez aujourd'hui le bazooka qui est menacé par l'Union européenne comme étant justement une arme potentiellement entreprise américaine en Europe...
J'ai été très triste de passer plus d'une heure et demie à Davos à écouter M. Trump. La question de savoir si ce sont des adversaires, mais c'est clairement pas des ennemis, je n'arrive pas à m'y résoudre. Effectivement, en étant patron d'une région forte qui était la France, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, j'ai découvert le talent des Américains, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la vie et dans entre dirigeants, ils comprennent bien qu'ils ne pourront jamais rayer de la carte ces 350, 400 millions de consommateurs.
Européens.
Ils ont besoin de nous. Nous représentons bien souvent 20, 30, 40% de leur chiffre d'affaires. Et au-delà de la politique et de la gesticulation médiatique extrêmement forte et agressive qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'il y a deux Amériques. Celle qui continue à vouloir avoir un commerce plus raisonnable et celle qui est dans un délire géopolitique, une forme avec des comportements erratiques très, très forts.
Il y a donc les mots, mais il y a aussi les actes. Et les actes sont notamment ces investissements.
Et ce qu'a fait l'Europe? Ce qu'a fait le président Macron a été extrêmement salué le deuxième jour de Davos. Madame Lagarde, Marc Carney, le Canada qui a pris même le soin de rassurer ou même de revenir sur un partenariat avec la Chine. Donc il y a une forme d'unité européenne. Ils servent quelque part à la fois la défense européenne et servent la prise de conscience qu'en Europe, on doit être beaucoup plus proche.
Que l'Europe se soit réveillée. Merci Pascal Cagny d'être venu dans ce studio ce matin. Président donc de Business France, l'agence qui est chargée des investissements étrangers dans notre pays. Et on se réjouit évidemment que ça crée des emplois sur le territoire français. 7h20 sur RMC. Et pendant ce temps-là, l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, quand on veut boire une bonne bière en Angleterre, on va au pub. C'est une tradition, mais elle est menacée.
Et oui, boire de l'alcool avec des inconnus, c'est une idée qui vient des Vikings et ça date de l'an 900. Sauf qu'aujourd'hui, les pubs sont en danger de disparition.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui est de retour. Il vient pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin avec vous, Arthur Chevalier. Et cette semaine, le gouvernement britannique a annoncé un plan de sauvetage des légendaires pubs. Ces bars typiques de la culture anglaise, ils sont en danger.
Et oui, le gouvernement annonce des réductions de taxes foncières, hein, en plus des 4,3 milliards d'aides de livres sterling déjà débloquées pour sauver des pubs qui en ont bien besoin. En l'an 2000, Apolline, il y avait 60 000 pubs en Angleterre. Aujourd'hui, il en reste moins de 40 000. Alors l'explication est assez simple, hein. Les taxes et l'énergie coûtent de plus en plus cher, du coup, le prix des pintes explose.
L'Angleterre sans ses pubs, c'est pas vraiment l'Angleterre.
Exactement, même si à l'origine, les pubs, ça n'est pas anglais, c'est viking. Et justement, au 9e siècle, les vikings vont envahir l'Irlande. C'est à ce moment-là qu'ils vont établir les ancêtres des pubs. Alors, l'idée était très simple, hein. Un endroit où on pouvait boire et manger avec des inconnus. Inutile de préciser que clairement, ça va rencontrer son public, hein.
Je comprends.
Le plus vieux pub du monde. Et d'ailleurs, en Irlande, ça s'appelle le Shun's Bar, dans la ville de Athlone. Et il a été construit en l'an 900. Ça existe toujours aujourd'hui.
Non, ça s'appelait déjà un pub?
Non. On appelait ça un ale house. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la ale, c'est l'ancêtre de la bière, hein. Bon, en gros, c'est à peu près la même chose. Une boisson faite à partir du houblon et méga fermentée. Le mot pub, lui, n'arrive qu'au 14e siècle. Pub, c'est le diminutif de public house, c'est-à-dire établissement public en français.
Tout le monde y avait accès?
Oui, mais le problème, c'est surtout que tout le monde pouvait en ouvrir. Et il n'y avait aucune réglementation. N'importe
qui. Plus on est de fous, plus on
y. Voilà, c'est ça. N'importe qui pouvait décider de faire un pub dans son salon. Vous imaginez ce qu'à l'échelle d'un pays ça peut donner. Et c'est le roi Richard II qui va réglementer tout ça. Il oblige les tenanciers de pub à accrocher un signe distinctif au-dessus de l'entrée. Alors, c'était assez rudimentaire. Un bout de bois, une branche. Et petit à petit, c'est devenu une vraie tradition avec des pancartes de plus en plus stylisées. Aujourd'hui, ça existe encore.
L'histoire de l'Angleterre, elle s'est aussi écrite dans ses pubs.
Ah bah bien sûr, prenez par exemple les Beatles. Ils avaient l'habitude de se réunir toujours dans le même pub. C'était à Liverpool, leur ville d'origine. Ce pub, ça s'appelle le Philharmonic Dining Room. Et ce lieu qui est devenu mythique est le premier pub d'Angleterre à avoir été classé monument historique de premier plan. C'était en 2020. Et figurez-vous que les pubs, c'est pas seulement un lieu de la culture populaire, puisque même la famille royale y va. Quelques jours avant le couronnement de Charles III, c'était en 2023, Kate et William ont fait sensation en allant boire une pinte dans un pub londonien. Toute la presse en avait parlé. Voilà, c'était la révolution. Et depuis, ils ont réitéré l'expérience. C'est le symbole d'une nouvelle ère pour la monarchie britannique.
Ils vont peut-être sauver les pubs. Donc merci et à la vôtre, Arthur.
Merci.
Chevalier d'historien d'Apolline Matin. Il est 7h24. Arnaud Demange est de retour.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Oh, cher Arnaud, je ne sais pas qui est le plus malade des deux entre vous et moi. Dans le face-à-face.
Ça se vaut. Ça se vaut.
Je précise à la radio que Géraldine est assise entre les deux.
Bataille de miasmes.
Dans le face-à-face, tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois l'essayiste et philosophe Bernard-Henri Lévy.
Oui, BHL. Et avec lui, nous reviendrons sur la situation en Iran, car le régime des Mollahs opprime toujours sa population. Les États-Unis pourraient attaquer l'Iran, t'imagines ? Te faire libérer par Donald Trump, tu te fais kidnapper par Guy Georges, et qui c'est qui vient de sauver ? Coucou, c'est Nordal le Landais. L'horreur. Les Iraniens, ils vont dire non, mais en fait, c'est bon, on se débrouille, on va gérer. Trump a envoyé vers le Golfe Persique le porte-avions américain Abraham Lincoln et son escorte. L'escorte du porte-avions, pas son escorte à lui, Trump. Il n'allait pas envoyer Mélania. Ou une Tiffany de 17 ans de chez Epstein. Mais les États-Unis tardent à intervenir. En même temps, c'est compliqué pour eux d'envoyer des soldats se battre à l'étranger alors qu'ils sont déjà occupés à tabasser des gens à la maison. Et la principale force d'oppression en Iran, ce sont les gardiens de la révolution. C'est beaucoup plus redoutable que les gardiens du FC Metz, par exemple. Ils sont terroristes les deux quand même, mais voilà. Et le régime iranien massacre son peuple dans l'indifférence générale. Le reste du monde reste là, sans bouger, sans intervenir. On dirait des Parisiens quand quelqu'un se fait agresser dans le métro. On n'a rien vu, on bouge pas. J'ai vu que Dominique de Villepin a proposé que l'Irak accueille des réfugiés. C'est vous dire quand ça va tellement mal chez toi que tu te dis. On serait pas mieux en Irak. On serait tellement mieux en Irak. C'est vraiment que t'es au bout du bout. Tu sais, j'ai aussi demandé à quelqu'un qui s'y connaît en islam radical de me résumer un peu la situation. Ouais. Je suis allé voir Francis Villemin. Vous savez, l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui. Très sympathique. Sefrioui accusé de complicité dans l'assassinat de Samuel Paty. Alors, Francis Villemin avait déclaré, Samuel Paty procédait à la discrimination des élèves musulmans. Sous-entendu, il a un peu mérité ce qui lui est arrivé. Donc, j'ai demandé pour les Iraniens pourquoi ils s'en prennent à la population. Il m'a dit, bien, la population a commis plusieurs crimes. Des femmes ont agressé la rétine des mollahs en montrant leurs cheveux. Des hommes se sont mis hors la loi en respectant pas la charia. Des manifestants ont commis de graves délits en réclamant la démocratie. Voyous d'Iraniens, mais t'as raison mon Francis, faut les redresser. C'est pas des mollahs, c'est des mollassons. Faut aller plus loin. Donc voilà, en attendant, les Américains envoient...
Il l'a bien cherché.
Donc les Américains envoient le Abraham Lincoln. C'est classe comme nom de porte-avions. Ouais. Je trouve ça chic. Tu nous vois, nous, dans 30 ans, général, la situation en Iran est intenable. Envoyez le François Hollande. On va pas aller loin. Et alors, avec BHL, faudra revenir également sur le Groenland. Ouais. On connaît BHL pour sa chemise blanche ouverte sur son torse impeccablement épilé. Est-ce que pour le Groenland, il viendra en doudoune blanche ouverte sur un torse sexy? J'ai hâte de voir ça. Ce sera à 8h30. À tout à l'heure.
Je suis pas sûr que la doudoune, ce sera à 8h30.
Ce sera pas classe dans le studio, ça.
Arnaud Demange, je vous retrouve tout à l'heure en direct à 8h20. Il est 7h27. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean, bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Anatomie d'une chute, celle de l'OM en Ligue des Champions. On sera dès le début de ce journal en direct de Bruges où les Marseillais sont tombés 3-0 hier soir avant de voir leur rêve voler en éclats au bout d'un scénario complètement improbable. C'est lui qui aurait donné son feu vert au bar de Cran Montana et ce malgré plusieurs manquements. Le chargé de sécurité de la commune est désormais visé par la justice suisse. Et puis vérifier régulièrement et non plus à l'embauche les casiers judiciaires des personnels de l'éducation nationale. C'est la proposition du gouvernement pour lutter contre les violences sexuelles à l'école.
L'Olympique de Marseille quitte la Ligue des Champions, la tête basse.
Ridicule, titre la Provence ce matin au lendemain d'une soirée cauchemardesque en deux actes. L'humiliation d'abord d'une défaite 3-0 sur la pelouse de Bruges, puis la désillusion et l'élimination causée à 2000 km de là par un but marqué à la dernière seconde par le gardien du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid. Florent Germain, on vous retrouve en direct de Bruges ce matin. C'est vous qui étiez aux commentaires sur RMC hier soir, et aussi improbable était l'issue, on peut le dire, les Marseillais ne méritaient de toute façon pas de passer.
Oui, exactement, vous l'avez dit, le scénario a été humiliant, honteux pour l'OM, parce qu'il a ramené Marseille à ses doutes, à ses limites. En fait, à part contre Newcastle, l'OM aura perdu tous les gros chocs véritablement en Ligue des Champions, et Marseille ne méritait pas d'aller goûter au parfum d'un barrage face à l'Inter Milan ou au Real Madrid, comme c'eût été le cas si le gardien de Benfica n'avait pas fini à distance par punir l'OM. La fracture risque d'être profonde avec les supporters marseillais qui ne comprennent pas comment l'OM peut avoir les jambes qui tremblent dans les grands rendez-vous. Une élimination qui va aussi forcément laisser des traces dans le vestiaire. Roberto De Zerbi, l'entraîneur, a quitté le stade KO hier, et les dirigeants comme Mehdi Benatia étaient très remontés contre les joueurs et prévoient forcément un débriefing musclé avec le vestiaire.
Florent Germain en direct de Bruges pour RMC. De son côté, le PSG n'a pas réussi à atteindre le top 8 et devra passer par les barrages après son match nul un partout face à Newcastle. Monaco qualifié également sur un match nul 0-0 face à la Juventus. Il est 7h32 et il y a du nouveau dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana, avec ce troisième protagoniste mis en cause par la justice suisse. En plus des deux gérants du bar La Constellation, où 40 personnes sont mortes la nuit du Nouvel An, cet homme, Pierre Bazin, c'est l'ancien chargé de sécurité de la commune, et c'est lui qui aurait permis à l'établissement de rester ouvert malgré plusieurs manquements.
Oui, les autorités judiciaires s'intéressent au rôle et au travail de cet homme chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana, qui a effectué plusieurs contrôles incendies dans le bar des Moretti. L'objectif de cette enquête est de déterminer si les normes étaient respectées et si les critères de sécurité étaient réunis pour maintenir l'établissement ouvert avant l'incendie. Selon les informations de nos confrères de BFM TV, lors des derniers contrôles datés de 2018 et 2019, plusieurs manquements auraient été relevés par les services de la commune. Les contrôleurs chargés de la sécurité incendie auraient imposé aux propriétaires du bar d'effectuer les mises aux normes nécessaires, tout en délivrant, selon les premiers éléments de l'enquête, des avis positifs permettant de maintenir l'établissement ouvert. Des éléments qui semblent laisser transparaître des dysfonctionnements sur lesquels se penchent à présent les enquêteurs.
Une nouvelle réunion dédiée à la lutte contre le narcotrafic à l'Élysée. Ce sera cet après-midi autour d'Emmanuel Macron. C'est la troisième depuis l'assassinat en novembre dernier du frère du militant Amine Kessassi. Il est 7h34 sur RMC et ce sont des chiffres qui feront froid dans le dos. 15% des enfants en CM1, CM2 ont déjà été victimes de voyeurisme dans les toilettes de leur école. Ils sont près d'un élève sur 10 à avoir été embrassés de force. Des chiffres inédits publiés hier par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour handicaper les violences sexuelles à l'école, le gouvernement veut renforcer les contrôles de ses personnels et notamment de leur casier judiciaire. Des contrôles tous les 3 à 5 ans et non plus seulement à l'embauche. Mais est-ce suffisant ? Martin Bourdin a posé la question devant des écoles de Paris où les affaires se multiplient depuis la rentrée.
Maman poule, comme elle se définit elle-même, Nathalie, est l'une des premières devant la grille à la sortie de l'école.
Mon fils est plutôt pour moi, donc la sécurité avant tout.
Alors des contrôles réguliers tous les 3 ou 5 ans du passé judiciaire des enseignants et des animateurs.
Ça pourrait éviter beaucoup de choses. Parce que nous, les parents, ça, on ne sait pas ce qui se passe à l'école. On les dépose juste, on les souhaite bonne journée et après on rentre à la maison. Donc pour moi, vérifier le casier judiciaire de tout ce qui travaille dans un établissement scolaire, c'est obligatoire.
Dans l'école maternelle voisine, un animateur a été suspendu, suspecté d'agression sexuelle sur des enfants de 3 à 5 ans. Il va donc en falloir plus pour rassurer tous les parents.
C'est une petite garantie supplémentaire, c'est un pas, mais on attend plus de pas pour pouvoir utiliser mots rassurer ou confiance. Là.
Je pense que c'est de l'affichage, c'est histoire de dire voilà, regardez, on a fait quelque chose, et puis au final, rien va changer.
Ça permettrait quand même, nous confie cette enseignante d'une autre école parisienne, d'éviter certains problèmes.
On limite au moins ceux qui peuvent venir de ceux qui ont déjà un casier judiciaire. Il existe malheureusement des récidivistes, et en plus, il y a des personnes qui ont un casier judiciaire et qui continuent de travailler. Cela ne devrait pas pouvoir travailler avec des enfants.
Nous devons redevenir un soupçonnable.
Reconnaît l'un de ses collègues, il faut tout faire pour redonner confiance aux parents, conclut-il.
7h35, l'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du rugby. La fin de carrière forcée pour Winnie Antonio, victime d'un accident cardiaque à La Rochelle mardi soir. L'international français de 35 ans est dans un état stable, mais la nouvelle est encore très dure à encaisser pour ses coéquipiers, Pierre Thévenet.
Et notamment pour le groupe du 15 de France réuni à Marcoussis pour préparer le tournoi Destination. Hier, après l'entraînement, le deuxième ligne Mickaël Guihard est apparu marqué.
C'est quand même un peu le papa du groupe. Ça fait des années qu'il est ici. On lui envoie plein d'ondes positives et on pense surtout à lui et à sa famille, quoi.
L'entraîneur des avants, William Servat, a lui tenu à saluer l'importance qu'avait le pilier dans la vie des Bleus.
Winnie est une personne magnifique et qui comptait vraiment si bien en tant que joueur mais en tant qu'homme dans le groupe. C'est vrai que je l'ai tous touché par ce qui arrive aujourd'hui. Vous savez, le rugby est bien loin dans ces moments-là et le rugby est pas anecdotique mais n'est pas important.
Une peine partagée par Patrice et Axel, supporters du Stade Rochelet, club que Bignatonio a rejoint en 2011 en provenance de Nouvelle-Zélande et pour lequel il a joué 330 matchs.
La consternation de voir notre Winnie, un colosse, l'emblème du Stade Rochelet, être touché par ça. Quoi, hein.
Ça dépasse largement le terrain, en fait. Il a sa marque de bière, il a ses restaurants, enfin, des gens portent des casquettes et des pulls avec la tête de Winnie dans la Rochelle.
Avec ses titres, sa bonhomie et son physique hors du commun, Winnie Antonio gardera une place toute particulière dans le cœur des fans de rugby.
En ski alpin, c'est officiel, Alexis Pinturo ne sera pas au Jeux d'hiver de Milan-Cortina. C'est le jeune Alban Elesi Canaferina qui a décroché le 8e billet alloué aux Bleus.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 9, Indigo de Fontaine. L'outsider, c'est le 7, Inérite.
C'était le journal des Lys d'Anjan. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il faut sauver la police nationale. Rien que ça, c'est l'appel que vous lancez ce matin. Bonjour Fabien Van Emmerich. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alliance Police. L'ultra-violence, l'impunité et les conditions de travail des policiers ne sont plus supportables. Voilà ce que vous nous dites dans un instant. On va aussi entendre ce témoignage exceptionnel, celui d'un de vos collègues, passé à tabac en septembre dernier à Tourcoing par 5 adolescents. Ultra-violence est de plus en plus jeune. Il est encore sous le choc. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le ras-le-bol des policiers face à l'ultra-violence. Des auteurs de plus en plus jeunes et des policiers pris pour cible. Vous estimez, Fabien Van Emmerich, que les conditions de travail des forces de l'ordre sont aujourd'hui révoltantes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. On va écouter dans un instant le témoignage, évidemment, de l'un de vos collègues. Avant de pouvoir vous faire réagir, je voudrais que vous l'écoutiez. Vous le connaissez, ce collègue, et c'est Louis, policier de la BAC. Il a 52 ans. Il a été passé à tabac en septembre dernier par 5 adolescents à Tourcoing, dans le Nord. C'est Julie Bro, notre reporter police-justice, qui l'a rencontré et qui a recueilli son témoignage. Son agression, elle avait été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. 4 mois plus tard, il est toujours sous le choc, il n'est toujours pas retourné travailler.
Nez cassé, déformé, j'ai des ligaments déchirés au niveau de l'épaule, donc je dois subir une chirurgie, et psychologique aussi, hein. C'est très difficile de pas l'oublier à sa vie. Donc l'agression m'a fait beaucoup réfléchir sur mon avenir professionnel. L'âge des agresseurs, c'est mes enfants, c'est 15 ans... Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de parler, d'agresser. Maintenant, c'est la violence. J'ai l'impression de voir la violence partout.
Comment vous l'expliquez, ça ?
L'impunité, tout simplement. Aujourd'hui, mes agresseurs sont en prison. Enfin, un des agresseurs est en prison, le deuxième est en maison de correction. Et quand bien même, la prison ne fait plus peur. Donc, si la prison ne fait plus peur, le policier ne fait plus peur. Donc, on essaie de s'adapter. Mais on est en manque d'effectifs. C'est très compliqué. Là, on n'était que 3 pour 5-6 individus. Hein. Et l'accident est vite arrivé, la preuve en est.
15 ans, déchaînement de violence et ce sentiment d'impunité des auteurs. Comment vous réagissez aux mots de votre collègue ?
Eh ben écoutez, je peux être que malheureusement désolé. C'est plus qu'émouvant et éprouvant pour tous les collègues. Et c'est l'exemple concret, donc c'est probant. Il n'y a pas d'autre mot à rajouter. Ce qu'on dénonce et ce qu'on dénonce à travers cette mobilisation qu'on veut faire le 31 janvier, c'est ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc là, mon collègue de la BAC de Tourcoing, mais il y en a malheureusement des milliers qui sont agressés comme ça, avec des individus de plus en plus jeunes. La violence est devenue gratuite, elle est devenue omniprésente, l'insécurité également. Et on n'arrive plus à éradiquer le problème. Et on se retrouve dans des situations où nous avons des collègues qui seront choqués psychologiquement. Celui-ci, moi je le connais, je l'ai vu au tout début de cette affaire. Il sera choqué pendant énormément de temps. C'est un homme d'expérience, 52 ans, à la BAC. Il n'est pas arrivé hier. Il s'est fait surprendre.
Et tout ça alors qu'il vient porter secours à un jeune qui se fait voler sa trottinette. C'est comme ça que ça commence.
Mais c'est exactement comme ça que ça commence. Il passe dans un parc de mémoire et il veut aider un gamin qui veut se faire piquer sa trottinette. Et au final, de fil en aiguille, ils reviennent sur le terrain à plusieurs et ça se termine comme ça. Mais d'une façon ou d'une autre, malheureusement, il n'y a plus une intervention qui se passe bien. Et c'est ça notre souci. La police nationale, aujourd'hui, c'est des millions d'interventions. Et dans chaque intervention, vous avez un danger très fort par rapport à avant.
Vous y allez avec la peur au ventre quand il dit au fond que désormais il y a un sentiment d'impunité chez les auteurs de ces violences. Ça veut dire que, et il dit même, ils n'ont plus peur de la prison, mais est-ce qu'ils ont encore peur du policier ?
Mais non, mais ils ont plus peur de l'État de manière générale. Ils ont plus peur des institutions. Il y a plus de notion. On a perdu les fondamentaux. Et donc, ils ont pas peur des policiers. C'est bien ça. Et il s'agit même pas d'avoir le mot peur. On n'a pas besoin d'avoir peur de la police. La police, elle est là pour sauver et protéger des vies. Par contre, on doit la respecter. Et on la respecte plus et on la considère plus. Et on se retrouve dans des situations comme celle-ci.
La question de l'ultra-violence et de l'âge des auteurs. Il y a eu en début de semaine ce drame dans le Rhône. Une jeune fille de 15 ans qui a été littéralement torturée, elle a été retrouvée à Garde, torturée par trois jeunes filles et un jeune homme qui eux-mêmes avaient entre 14 et 17 ans. Comment vous faites face à ça, vous ?
Mais malheureusement, c'est l'appel à l'aide qu'on fait, c'est qu'on n'arrive plus à faire face à ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une multiplication de ce genre d'horreur et on se retrouve dépourvu par rapport à une situation qui est omniprésente. On n'est plus dans certains quartiers qui étaient compliqués il y a encore quelques années. C'est dans toute la France. Vous pouvez donner des exemples comme ça tous les jours, quel que soit l'endroit en France. C'est ça.
On a parlé là du Rhône, on a parlé de Tourcoing avec votre collègue. Et justement, il y a Perrine qui, elle, nous appelle de Paris. Bonjour Perrine. Vous êtes policière à Paris en Ile-de-France. Vous vouliez vous-même témoigner. On vous écoute, Perrine.
Oui, effectivement, je voulais témoigner. Déjà, j'apporte tout mon soutien aux collègues blessés à Tourcoing. Et j'apporte tout mon soutien aux milliers de collègues blessés chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année lors de nos interventions. Pourquoi j'adresse ce soutien ? C'est parce que depuis 9 ans, je partage la vie d'un policier et je vois nos conditions.
Vous n'êtes donc pas, pardon, vous-même policière, vous êtes épouse de policier.
Je suis également.
Ah, vous l'êtes également, d'accord.
Oui. En fait, c'est une vocation qu'on a, c'est une passion, parce qu'on a envie de protéger un peu la veuve et l'orphelin. Mmh. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire face réellement à l'hyperviolence et à la jeunesse des délinquants et des criminels d'aujourd'hui. On fait face à des individus qui nous appellent pour créer un guet-apens et nous canarder de mortiers d'artifice.
Vous l'avez vécu vous-même, Perrine, ou votre époux ?
Évidemment, on le vit tous les jours. On le vit tous les jours. On reçoit par exemple des appels pour un tapage. Ouais. Donc vous, comme vous allez nous appeler pour nous dire que votre voisine met la télé un peu trop fort, ben là c'est le même principe, sauf que là ce sont des dizaines de jeunes qui nous attendent avec des mortiers d'artifice et qui nous canardent.
En fait, c'est un piège.
C'est un piège, tout à fait. Mmh. Et ils veulent nous tuer. C'est ceux qui nous disent, quand ils nous hurlent dessus, ils veulent nous tuer.
Vous avez la peur au ventre quand vous allez bosser, Perrine ?
Oui, mais en même temps, on fait un très beau métier. Sinon, on le ferait pas.
Ouais, vous ne regrettez pas ?
Absolument pas. Mmh. Absolument pas. Mais parce que c'est cette passion et c'est cette vocation qui nous anime. Mais on sait très bien qu'on n'a pas les moyens de pouvoir faire face à ce genre de situation. Parce qu'effectivement, ce sont de jeunes délinquants qui ont 13, 14 ans. Dans la plupart des cas, quand ils sont interpellés, ils vont être relâchés dans la demi-heure auprès de leurs parents qui vont leur passer, si ça se passe bien, un petit savon et une petite morale, mais que le surlendemain, on va venir réinterpeller.
Cette jeunesse et cette violence, merci Perrine d'avoir témoigné. Ces témoignages, effectivement, qui se multiplient. Ce matin, Mathieu, vous aviez un ancien policier, un ancien gendarme, qui disait avoir quitté la gendarmerie après 17 ans de service pour finalement devenir agent de sécurité en Suisse, parce qu'il n'en pouvait plus. Il disait, j'ai raccroché les gants. Fabien Van Emmerich, vous appelez donc à une mobilisation partout en France samedi, mais une mobilisation citoyenne.
Exactement, on appelle à l'aide. C'est la seule solution qui nous reste. Il faut une prise de conscience. Et c'est pas de la politique politicienne, attention, hein, nous, c'est une prise de conscience citoyenne où on sait que la population protège et aime sa police de manière générale et dans sa majorité. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où bientôt, on pourra plus, et d'ailleurs, les témoignages le prouvent, on pourra plus assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, il faut que le gouvernement prenne conscience qu'il est grand temps de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on nous abandonne.
Vous appelez donc à cette mobilisation générale. Cécile Duflot, qui sera dans ce studio dans un instant, notre voix de gauche, la semaine dernière, était très inquiète de la présomption de légitime défense qui allait arriver à l'Assemblée, qui serait en quelque sorte vous donner une présomption lorsqu'il y a pourtant parfois des bavures ou des inquiétudes sur des raisons pour lesquelles certaines personnes arrêtées ont pu trouver la mort. Le policier filmé en train de frapper El Hassen Diarra, par exemple, la semaine dernière lors de son interpellation, ce Mauricien de 35 ans décédé au commissariat du 20e arrondissement n'a pas été suspendu. Est-ce que vous considérez que ça ne va pas rompre la confiance ?
Alors, pas du tout. Déjà, un mot. La sécurité, et Mme Duflot, d'ailleurs, s'en occupe aussi, ça n'appartient pas à un parti politique. La sécurité appartient à nous tous et tout le monde a le droit d'en parler. Ça, c'est important. Il y en a marre.
C'est pas de gauche ou de droite, quoi, pour
exactement.
Vous.
Il y en a marre de ces clivages. On est tous des citoyens. On a tous besoin de sécurité. Et croyez-moi, dans les quartiers compliqués, c'est pas là, généralement, où c'est le plus facile pour les gens
mais
qui habitent.
Mais cette question, présomption de légitime défense,
ça, c'est simple. C'est pas le permis de tuer, comme j'entends dire partout. C'est qu'aujourd'hui, mes collègues, ce qu'ils en peuvent plus, et c'est la réalité des faits. Il suffit d'aller dans n'importe quel commissariat. C'est-à-dire que, vous interpellez, pour faire très bref, vous interpellez un individu. Si toutefois l'interpellation se passe mal, mais malheureusement c'est généralement le cas, c'est toujours la parole du policier qui est remis en cause avant même le début de l'enquête. Et ça, je peux le prouver sur des centaines d'enquêtes. Donc nous, ce qu'on demande, quand on parle de présomption légitime de défense, c'est pas le permis de tuer ou c'est pas le flic a toujours raison. C'est dans un premier temps, il se passe une affaire, quelle que soit l'affaire, on croit dans un premier temps à la parole de l'État, à la parole du policier. Ensuite,
en fait, c'est la charge de la preuve qui est inversée.
Exactement, c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est qu'ensuite, évidemment, il y a une enquête qui sera mise en place. Et si cette enquête a lieu et prouve des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, d'ailleurs, on le voit bien, quand il y a des enquêtes, souvent, il n'y a quasiment jamais d'erreur.
Oh, il y a parfois tout de même des policiers qui sont condamnés.
Mais dans ces cas-là, ils sont sanctionnés. Je vous rappelle quand même que c'est l'institution la plus sanctionnée quand il y a une erreur. Nous, ce qu'on demande, c'est arrêtons, parce que ça n'aide pas justement à redonner le pouvoir aux policiers et à respecter le policier. C'est-à-dire que à partir du moment où il agit sous serment, il est assermenté et je pense que sa parole mérite bien plus que ce qu'elle est aujourd'hui.
Merci beaucoup Fabien Van Hemelrijk d'être venu ce matin. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. Votre appel à la manifestation samedi dans 23 villes de France pour dénoncer donc l'insécurité dont vous êtes vous-même et ce sentiment d'impunité face à vous chez les auteurs, les plus jeunes et plus violents. 7h51 et justement la voix de gauche, Cécile Duflot, est avec nous ce matin comme chaque jeudi. Bonjour Cécile Duflot. Cécile, bonjour, la Bretagne bat des records de pluie.
Oui, la Bretagne se noie et ça n'est malheureusement probablement pas la dernière fois. Il faut en parler et il faut surtout agir.
Vous nous le dites dans un instant, 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus, Mathieu, le retour de BTS. Et c'est de la géopolitique.
BTS, le boys band sud-coréen, les pionniers presque de la K-pop, de cette influence de Séoul sur le monde. On a parlé du retour du nouvel K-pop. Album, de la tournée, des billets pris d'assaut, des fans qui protestent, des prix des places. Bon bref, là, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est bien plus que de la musique avec BTS, c'est que par exemple, en Corée, on salue leur influence positive sur la croissance. Là-bas, c'est très sérieux. Et quand je vous dis que c'est géopolitique, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a écrit à son homologue sud-coréen pour demander l'ajout de nouvelles dates du groupe dans son pays. Les fans mexicains sont frustrés, il y a 150 000 places et 1 million de demandes. Bref, on a une présidente qui écrit à un premier ministre, reste à Emmanuel Macron de chausser ses lunettes de soleil et d'écrire à son homologue sud-coréen pour avoir plus de dates. Pour l'instant, il y en a deux, c'est complet, 17 et 18 juillet prochain au Stade de France.
C'est Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et ce matin, comme chaque jeudi, c'est la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, de nouveau en vigilance orange pour crue inondation. Depuis début décembre, c'est toute la Bretagne qui est sous l'eau, Cécile.
Oui, la Bretagne est sous l'eau depuis début décembre à cause d'une conjonction de phénomènes, à la fois des perturbations, des tempêtes, des pluies incessantes. Du coup, les sols sont saturés d'eau. Tout ruisselle et la semaine prochaine, on attend du vent et des grandes marées qui du coup empêchent l'eau de s'évacuer. Et donc, l'eau des rivières est bloqué et la Bretagne va continuer d'être sous l'eau.
On pense évidemment aux habitants d'abord. Hein.
Oui, on pense aux habitants parce que quand ça dure depuis plusieurs semaines, y compris les médias s'intéressent un peu moins, alors que les gens sont toujours dans des situations très difficiles, très compliquées, et l'eau qui s'infile partout dans les bâtiments, quand ça revient, c'est très très pénible à vivre.
Pour vous, il y a un lien clair avec le changement climatique?
Oui, parce que on voit bien ce qui se passe avec la pluviométrie, notamment des mois de décembre et janvier, qui bat record sur record et qui, depuis 20 ans, est en train d'augmenter énormément. En fait, c'est très mécanique. L'air est plus chaud globalement, donc il y a plus de vapeur d'eau et donc ça fait des pluies plus intenses et plus longue. L'ouest de la France est particulièrement exposé aux inondations longues, comme on voit, et aussi le sud-est, là, avec des inondations brutales et des risques,
y compris pour la population. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Oui, on peut agir. On doit absolument travailler sur la prévention et sur l'adaptation. La prévention des conséquences immédiates. En France, c'est le pays en Europe où on meurt le plus des noyades à cause des inondations violentes, notamment pour les gens qui sont en voiture. Donc, oui. En fait, faut jamais être en voiture quand il y a des menaces de pluie. Je le dis, c'est un moyen de préserver le maximum de vie. Il y a évidemment des coupures d'électricité. Il y a les bâtiments qui sont fragilisés. Quand vous avez des maisons comme celles qu'on voit derrière vous qui restent pendant des jours sous l'eau, les fondations sont fragilisées. Il y a évidemment les terres agricoles qui peuvent souffrir d'avoir été submergés par l'eau. Et puis, il y a un très gros coût pour les communes et les assurances, avec des difficultés de se maintenir son assurance. Donc, il faut absolument mener une politique d'adaptation. Et d'autant plus que nous sommes à quelques semaines des élections municipales. Et donc, je conseille tout le monde d'interpeller ses élus sur qu'est-ce qu'ils vont faire en matière de politique d'adaptation, en particulier au changement climatique, à la fois de sécheresse, de grande chaleur, mais aussi aux conséquences des inondations, parce qu'il y a des choses à faire.
Il y a des choses à faire. Vous avez des exemples concrets?
Oui, des exemples très concrets. D'abord, il faut plus construire en zone inondable. C'est la base. Mais ensuite, il faut redonner de l'espace aux rivières pour qu'elles puissent s'étendre et puissent savoir que le meilleur moyen de se prévenir des inondations, c'est de garder des éponges naturelles, de garder des zones qu'on peut inonder. Ce qui d'ailleurs s'est fait à Brest, dans le quartier de Quérinou, parce qu'il y a un parc qui a été créé, qui est un parc inondable, qui permet de préserver ce quartier. Ça permet de préserver aussi les routes, les ponts et les réseaux qui, eux aussi, vont subir des conséquences compliquées. Et évidemment, il faut continuer de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre le changement climatique. On vit déjà les conséquences dans nos vies et on doit absolument résister.
Merci Cécile. Cécile Duflo, voix de droite, voix de gauche, et le vendredi, c'est les deux à la fois. Demain, le débat. Cécile Duflo face à Charles Consigny. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 et toujours de la pluie, Géraldine.
Oui, on en parlait effectivement, la pluie qui va encore toucher la Bretagne, alors qu'on a toujours ces vigilances oranges pour les crues, crues de l'Oust, crues de la Vilaine également. Alors c'est relativement calme quand même ce matin. Dans l'Est, on a des pluies qui sont en train de quitter le pays, avec quelques flocons à très basse altitude. Mais on va avoir ces nouvelles pluies, oui, qui vont arriver à nouveau cet après-midi par la Bretagne, par l'Atlantique, accompagnées d'un bon coup de vent, notamment ce soir, avec des rafales qui pourront dépasser les 100 km/h. Puis côté pluie, on attend encore 20-25 mm de pluie supplémentaires, donc sur la Bretagne. Sur le quart sud-est, on va avoir pas mal de soleil. Attention quand même au risque d'avalanche qui reste très élevé, 4 sur 5 pour les Alpes du Sud et la Corse. Il fait un peu plus froid ce matin. Cet après-midi, les températures vont remonter dans le sud-ouest. On va aller jusqu'à 17 degrés à Biarritz, il fera 12 à Marseille, à Bordeaux, 11 à Brest, 8 à Paris ou à Lyon, 6 à Lille et Strasbourg.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous allez entendre dans un instant le témoignage d'une mère. Sa fille, jusque-là sans histoire, fait partie des 4 mineurs soupçonnés d'avoir séquestré et torturé une jeune adolescente de 15 ans près de Lyon. L'Erika refait surface 26 ans après son naufrage au large du Finistère, une marée noire historique que l'on pensait oubliée. Mais les traces de mazout provenant du pétrolier ont récemment été retrouvées sur des oiseaux. Et battu 3-0 hier soir à Bruges, Marseille quitte la Ligue des Champions la tête basse. Paris et Monaco pourrait se retrouver en barrage.
Détention provisoire requise à l'encontre de 4 jeunes mineurs.
Insoupçonnés d'avoir fait vivre un calvaire à une jeune adolescente de 15 ans, séquestrée, torturée le week-end dernier dans un sous-sol, retrouvée errante, ensanglantée lundi matin dans les rues d'Oulin, près de Lyon. Parmi ses agresseurs, son ex-petite amie et 3 jeunes filles mineures âgées de 14 et 17 ans. Leur profil surprend, tous inconnus des services de police. Ce matin, la mère de l'une des tortionnaires présumées âgée de 14 ans témoigne au micro RMC de Vincent Chevalier.
La fille de Marie et la jeune victime se sont connues l'année dernière dans un foyer d'urgence, d'abord amis. Leur relation s'est ensuite tendue pour une histoire de cœur avec l'un des mineurs impliqués dans l'affaire.
Au début, c'était le petit copain de la victime et il est tombé amoureux de ma fille et du coup, ils ont commencé à se fréquenter et ça a fait un peu de jalousie.
Selon Marie, des vidéos où la victime est torturée ont été retrouvées sur le téléphone de sa fille. Elle a pu lui parler quelques instants pendant sa garde à vue.
Elle a avoué, elle a rien caché, elle a tout dit. Elle a présenté ses excuses, elle a dit qu'elle était dépassée en fait et à ce moment-là, elle était en colère. Elle n'a pas su gérer ses émotions.
Des émotions exacerbées dans un contexte familial difficile et une santé mentale fragile.
Je pense que c'est un tout. On sort d'une situation qui est un peu compliquée et je pense que psychologiquement, ça ne va pas. Du coup, elle a pété les plombs.
Difficile de trouver les mots pour cette maman, démunie, incapable d'expliquer ce déchaînement de violence.
J'ai beaucoup de mal à me dire que ma fille, elle va m'être enlevée, quoi. Alors que j'ai tout fait pour la sortir du foyer, tout ça. Et là, on va me la reprendre.
Avec sa fille, trois autres mineurs ont été interpellés, ainsi qu'un majeur suspecté d'avoir conduit la victime sur le lieu de la séquestration.
C'est un souvenir douloureux qui ressurgit 26 ans après le naufrage de l'Erika au large des côtes bretonnes à bord du pétrolier. 30 000 tonnes de mazout déversées sur 400 km le long des plages. Il a fallu des années pour en venir à bout. Sauf que ce n'est pas terminé. Conséquence de récentes tempêtes, Romain Houg, une vingtaine d'oiseaux ont été retrouvés mazoutés.
Oui, c'est la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui les a récupérés le long des plages bretonnes. Leurs plumes ont été envoyées au Cèdre de Brest. C'est un centre spécialisé dans la pollution sous-marine qui les a analysé et qui confirme qu'il s'agit bien du fioul de l'Erika. Alors, si ça ne fait presque aucun doute, c'est parce que ce centre, comme à chaque fois qu'une marée noire touche nos côtes, a prélevé à l'époque des échantillons du mazout transporté par l'Erika. Chaque cargaison comporte une espèce d'ADN et c'est bien cette signature particulière qui a été retrouvée sur les oiseaux échoués plus de 26 ans après le naufrage du pétrolier. Comment est-ce possible? Eh bien, écoutez, Cédric Marteau, il est le directeur général de la LPO.
Les bateaux qui sont au fond de l'eau, plus de 120 mètres pour l'Erika, sont des bateaux qui bougent avec les tempêtes. Il y a des courants marins de fond et de temps en temps, il y a des brèches qui s'ouvrent. L'Erika, il reste du fioul dans les tubes. Il n'a jamais pu être pompé entièrement. Et là, c'est la première fois qu'on retrouve des oiseaux qui auraient été contaminés par du fioul venant de l'Erika.
L'urgence désormais, assure-t-il, c'est d'envoyer des sous-marins inspecter là où les brèches, puis soit de les souder, soit d'essayer de pomper l'hydrocarbure restant afin d'éviter une nouvelle catastrophe.
Les précisions de Romain Houg. Le narcotrafic, objet d'une nouvelle réunion à l'Elysée ce jeudi, la troisième depuis la mort de Mehdi Kessassi à Marseille en novembre dernier. Emmanuel Macron souhaite faire un point d'étape en présence de plusieurs ministres et responsables de la lutte contre le crime organisé. Il est 8h04, vous écoutez RMC, la nouvelle salve de Bernard Arnault contre l'État après le passage en force du Premier ministre sur le budget continue de faire parler. Le patron de LVMH accuse la France d'être contre les entreprises cherchant à les taxer. Il fait ici référence à la taxation des bénéfices sur les grandes entreprises, un avis que ne partage pas Pascal Cagny. Le président de Business France est venu ce matin sur RMC présenter le bilan de l'investissement étranger en France l'an dernier, en hausse de 2% par rapport à 2024.
Moi qui reviens à Davos, je peux vous dire par exemple que les dirigeants américains qui généralement sont extrêmement arrogant, nous regarde de haut, et bien là, à la faveur de cette arrogance incroyable de l'administration Trump, ont une forme d'humilité et reconnaissent qu'on va devoir continuer à faire des affaires, quels que soient les tarifs, quelles que soient les rétorsions, quelles que soient les coercitions qui sont en place. Donc je crois qu'on a là un atout rare, unique, qu'il faut continuer à jouer. Et ça fait plus de 8 ans que nous sommes le pays le plus attractif. Ce n'est pas arrivé en 3 ou 4 décennies.
Un nouvel épisode ce matin dans la guerre entre VTC et taxi. Ça se passe à Agen, dans le Lot-et-Garonne. La ville a décidé d'interdire les chauffeurs privés de 7h à 22h sur l'ensemble du territoire de la commune et ce, tous les jours de l'année. Ce sera 135 € pour les contrevenants. Une action en justice est en cours pour casser l'arrêté du maire d'Agen qui a en fait répondu, Cassandre Bro, à la demande des taxis. Les VTC sont très remontés.
3 ans que Freddy Rossi est chauffeur VTC à Agen. Alors, cet arrêté, c'est un gros manque à gagner.
Je vais perdre en moyenne entre 200 et 300 euros par jour.
Car dans la zone interdite à la circulation entre 7h et 22h, la gare d'Agen, le parc des expos et les principaux hôtels, entre autres.
Ça représente 95% de notre chiffre d'affaires en gros.
Cette décision de la mairie fait suite à une demande des taxis qui s'estiment victimes d'une concurrence déloyale, ce qui a entraîné des tensions entre chauffeurs.
On m'a menacé de me détruire la voiture, on m'a menacé de s'en prendre à moi physiquement, de m'empêcher de travailler.
Des faits démentis par les taxis locaux comme Alex Ovelero, taxi à la gare d'Agen depuis une dizaine d'années.
Il y a eu des échanges un peu houleux
il y a eu des tensions. Nous, l'impression qu'on a, c'est qu'on vient nous prendre directement de la gamelle, en fait. Nous, on vit vraiment de la gare et de ces petites courses-là. On n'a pas les mêmes tarifs. Moi, si je me mets à moitié prix tarif VTC, demain, je meurs. J'ai une licence à 120 000 euros à rembourser. Clairement, ça nous tue. La cohabitation, elle est très difficile.
L'Union Automobile, un syndicat de chauffeurs VTC, a déposé un recours hier auprès du tribunal administratif de Bordeaux pour faire annuler cet arrêté municipal.
La France va soutenir le placement des gardiens de la Révolution en Iran sur la liste des organisations terroristes. Ce sera sur la table d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens ce soir à Bruxelles. L'Iran, où la situation se tente, et Iran menace de répondre aux attaques de Donald Trump qui réclamait hier la conclusion d'un accord sur le nucléaire. Le temps est compté, dit le président américain qui a positionné des bateaux de guerre au large de l'Iran. Paris et Monaco pourraient bien se retrouver en barrage de Ligue des Champions après son match nul face à Newcastle un partout. Le PSG est éjecté du top 8. Les Parisiens se retrouvent barragistes. Ce sera face à Karabakh ou Monaco qui a tenu tête à la Juve 0-0. Grosse déception en revanche pour l'Olympique de Marseille. Battu à Bruges 3-0, les Marseillais qualifiés au coup de sifflet final sont finalement éliminés de la compétition. Conséquence d'un but du Benfica Lisbonne à plusieurs milliers de kilomètres de la colère froide hier soir du directeur du foot marseillais, Mehdi Benatia.
Soirée de merde, soirée, on va te dire, même honteuse. On est sur un problème, j'ai envie de dire, récurrent. On a joué un très bon match il y a 3-4 jours contre Lens. Et aujourd'hui, tu fais un match comme ça contre une équipe de 20-22 ans de moyenne d'âge. T'es là, tu gagnes pas un duel. Quand t'es en train de jouer une finale comme ça, importante pour l'histoire du club, pour la continuité, et que tu fais rien du tout, et que t'as des joueurs qui sont même pas rendus compte de l'événement, qui sont en train de marcher, moi, ça, c'est des choses que je peux pas accepter.
Et la course à l'Europe continue ce soir sur RMC pour Lyon en Europa League. Lille aussi toujours en course, Nice est déjà éliminé. Et puis Alban, Elesi, Canaferina, 8e et dernier skieur français sélectionné pour les Jeux de Milan en Cortina. Les médaillés olympiques Alexis Pinturo et Victor Mufajandé restent sur le carreau. Les Jeux d'hiver à vivre dès le 6 février sur RMC, radio officielle de la compétition.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h08, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre. Bonjour. Emmanuel, le budget 2026 n'est même pas encore adopté, que le gouvernement multiplie déjà les coups de canif dans les mesures d'économie qui étaient pourtant promises.
Effectivement, rien...
C'est déjà fini.
Et oui, rien que pour la journée d'hier, et il faut rappeler que ce budget n'est pas encore tout à fait voté, rien que pour la journée d'hier, le gouvernement a reculé sur deux mesures d'économie. La prime de Noël, d'abord, hein, le gouvernement voulait la réserver cette année aux seules personnes ayant des enfants. Elle sera finalement conservée pour tous les bénéficiaires, dont les allocataires du RSA et les chômeurs en fin de droit. Le gouvernement fait ainsi une croix sur 260 millions d'euros d'économie. Et puis, selon les informations de nos camarades de BFM Business, les suppressions de postes dans l'éducation nationale seraient légèrement revues à la baisse. On ne serait plus autour de 4 000, mais autour de 3 200, 3 300 à peu près.
Il y a d'autres efforts budgétaires auxquels le gouvernement s'apprête à renoncer ?
Oui, et là, ça se focalise particulièrement sur les comptes de la sécurité sociale. Le déficit devait être maintenu sous la barre des 20 milliards. Eh bien, c'est extrêmement peu probable. Il y a d'abord le nouveau congé supplémentaire de naissance qui était censé n'entrer en vigueur qu'en 2027, mais qui va entrer en vigueur au 1er janvier. Ça, c'est les parlementaires qui l'ont exigé. 200 à 300 millions d'euros. Il y a, rappelez-vous, cette baisse de l'abonnement à l'électricité qui coûtera quand même 540 millions à l'État et qui est aussi un moins pour les comptes sociaux, puisque ça affecte les caisses de retraite des électriciens. Au final, on a le Haut Conseil du financement de la protection sociale qui nous dit que rien que sur ce budget de la Sécu, il y a au moins 700 à 800 millions d'euros de manque à gagner qui ne sont pas inscrits dans le budget d'aujourd'hui.
Et l'histoire des 4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage ?
Ah bah oui, bah ça c'était effectivement... Ça aussi, rappelez-vous, c'était François Bayrou qui avait exigé 4 milliards d'économies aux partenaires sociaux. Hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dit « Bon écoutez, on oublie un peu cette lettre de cadrage. »
On n'est plus à 4 milliards
donc
près.
Donc ce sera plutôt entre 400 millions et 1 milliard. Plutôt que 4 milliards. Alors c'est les comptes de l'assurance chômage. Mais rappelez-vous que l'État adore puiser dans les comptes de l'assurance chômage. Donc c'est quelque part aussi un manque à gagner.
Donc on ne fait plus d'efforts.
Et Moody's nous dit, vous ne tiendrez pas vos objectifs de déficit public pour 2026. Et on est encore plus inquiet pour la préparation du budget 2027.
Merci Emmanuel Le Chypre.
Les ennuis ne font que commencer.
Inquiet donc pour notre déficit ce matin. Il est 8h11 dans un instant. Arnaud Demanche nous rejoint. Notez qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera l'essayiste et philosophe Bernard-Henri Lévy. On reviendra évidemment sur l'Iran. Faut-il intervenir ? Les États-Unis, voire l'Europe ? Est-ce que nous sommes nous-mêmes lâches ? Est-ce qu'on est en train de laisser tomber le peuple iranien ? Et puis juste après ça, il y aura aussi Nicolas Cantelou et ses imitations. Face à Cantelou, c'est tous les jours à 8h50 sur RMC. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Il est de retour.
Ah oui.
Ouais. Ça va pas mieux non plus, vous, votre
non,
truc.
Non, non, moi j'aimerais hiberner. Ça, je comprends pas pourquoi on n'hiberne pas.
Mais on devrait faire.
Mais oui,
on
se réveille en mars. Jours.
On devrait demander 6 mois de congé en hiver. Mais ça s'entend, vous avez un peu le nez pris encore.
Oui.
Le nez pris, comme le film avec Brigitte Bardot.
Très bon.
Et mes jambes. Du les aime, mes jambes. C'est rigolo parce que normalement c'est le mépris, voilà. Je le dis pour ceux qui connaissent pas le film. Pardon, c'est la fièvre. Tiens, en parlant de fièvre, la température monte sur CNews en ce moment à cause de l'affaire Morandini. Oh ouais. Vous savez, cet OQTF qui squatte la tranche 10h30 midi sans pouvoir être expulsé après sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. On rappelle qu'il se faisait passer pour une femme pour solliciter des nudes d'adolescents. Alors déjà, Jean-Marc Morandini qui demande des photos à poil. T'es pas rassuré, mais Morandini avec une perruque, une robe et du rouge à lèvres qui fait la même chose, t'es pas bien. Et Jordan Bardella ne veut plus que les élus du RN se rendent sur son plateau. À quoi elle va servir l'émission du coup? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Parce que non, mais c'est comme si les militaires retraités boycottaient le plateau de LCI. Il reste rien. Quoi. De toute façon, tout le monde pète les plombs sur CNews en ce moment. Vous avez vu cette semaine, il y a le chroniqueur géopolitique Vincent Hervouette qui a carrément accusé les hommes autour du plateau de porter une barbe à cause de l'influence sournoise des mollahs iraniens.
C'est vraiment le triomphe des mollahs. Ils ont réussi non seulement à faire porter la barbe à toute une génération. Nous sommes 5 sur ce plateau, 5 hommes, vous êtes 4 êtes barbus.
Voilà. Putain. Eh ben, ça, c'est de l'antrisme, hein. Franchement, tu sais, je suis pas fan des frères musulmans, mais arriver à coller 4 barbus radicalisés discrètement sur un plateau de CNews, alors là, j'applaudis parce que la perf était pas facile. Fallait quand même le faire. C'est un peu comme organiser un spectacle de Dieudonné en loose-dé dans une synagogue Lubavitch. S'il y arrive, tu te dis, c'est abusé, mais en attendant, il y a un tour de force,
vous voyez. Alors, vous-même un petit peu barbu, hein.
Un petit peu barbu et radicalisé à fond. Pardon. Alors évidemment, un des musulmans radicalisés présents proteste, hein, parce qu'Ahal Pro essaye maladroitement de contester qu'il a été découvert.
C'est quoi l'ayatollah Khomeini qui fait que nous avons une barbe de 2 jours?
Ben voyons, la taquilla, on
c'est
connaît.
C'est exactement ce que dirait.
C'est exactement ce que dirait un radicalisé. La dissimulation. Pascal Pro, on a son emploi du temps pour le 11 septembre 2001? Non, on ne l'a pas. Faudra un jour se pencher sur cette organisation radicalisée par Jordan Barballa.
Anne Hidalgo et ses adjoints sont critiqués après avoir posté un selfie tout sourire dans un avion avant une visite commémorative à Auschwitz.
Oui, ça donnait vraiment cette impression. Il s'ambiançait pour aller à Auschwitz. La photo est drôle, hein. On la voit dans les écrans. Vous l'avez regardé là chez vous. Tous dans l'avion. Tadam! Départ pour Auschwitz. Après, je comprends. T'es un peu obligé de chercher à mettre une ambiance parce que bonjour le week-end de team building entre collègues. Vous imaginez votre chef qui débarque en salle de réunion. Bon, j'ai décidé de vous réunir parce que je pense que pour le bien de cette équipe, faut tous vous envoyer à Auschwitz. C'est pas fun. Pas un sourire à ce point. Si votre conjoint vous offre un week-end de Saint-Valentin en pique-nique à Oradour-sur-Glane, vous souriez pas quand même. Vous êtes discret. Alors il va y avoir d'autres voyages commémoratifs à la mairie de Paris. Ça brainstorm en réunion. En ce moment, ils sont là. Hey, les copains, si la semaine prochaine, on allait à Hiroshima et Nagasaki rendre un petit hommage. Ah ouais, génial, j'adore les sushis. Et on pourrait. On pourrait aller au musée de l'esclavage sur l'île de Gorée au Sénégal. Oh bah, comme ça, on viendra tout bronzé en hiver, c'est plus sympa. Écoutez, c'est toujours bien de joindre l'utile à l'agréable.
Psychologie Magazine, Arnaud nous dévoile une nouvelle tendance. Les jeunes adultes organisent des soirées administratif afin de faire ensemble leurs papiers.
Ouais. Ouais. Mais oui, on dit que les jeunes savent plus s'amuser, mais c'est une bonne idée quand même.
Je veux faire ça avec Géraldine.
Allez, viens faire tes impôts à la maison. Ceci dit, je m'étonne moins que la natalité baisse.
Oui, hein. Non, mais j'allais le dire.
Avant, pour pécho, on faisait des soirées karaoké, strip poker, il y avait une bonne bouteille. 9 mois plus tard, t'avais réarmé démographiquement. Bon. Là, 3 heures de compta et de calcul de frais kilométriques, est-ce que t'as vraiment envie de conclure? Alors Manu Le Chiffre me disait, oui, évidemment. Je connaissais les soirées Netflix and chill ou les soirées sex and sushi, mais les soirées rapport comptable et rapport sexuel, je ne les avais pas vu venir. Va créer une ambiance romantique en remplissant des cases de formulaire. Je suis même pas sûr que ça mette une si bonne ambiance que ça.
Dedans, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salopé la peigne.
Ça dénerve. Non mais qu'est-ce qu'elle veut dire,
la mongolienne,
là?
Vous voyez, ça dégénère très vite. Ils vont pas conclure, les deux.
Oh là là, mon Dieu, ça dégénère.
Allez, soignez-vous bien.
Ça dégénère énormément. Merci. qu'on retrouve aussi en podcast à tout moment, bien sûr, et en tournée partout en France avec un nouveau spectacle. Vous serez à Toulon, à Nice, à Aix-en-Provence, à Épinal, à Reims, à Mâcon. C'est un spectacle
avec plein de miasmes à transmettre à tout le monde. En tournée.
Il sera plus malade. Il est 8h19. Vous nous appelez au 3216. Nicolas, qui nous a appelé de la Nièvre. Bonjour Nicolas, vous êtes chauffeur routier et vous vouliez réagir au propos de Bernard Arnault. Vous l'avez entendu, Bernard Arnault, qui estime que la France est anti-entreprise et que ça crée même du chômage avec toutes ces taxes. Nicolas, comment vous réagissez-vous ?
Alors moi, je pense que je suis d'accord avec avec son constat. C'est un constat. Hein. C'est plus un constat qu'un coup de gueule.
D'accord.
Je pense qu'il parle pas que pour lui. Il parle pour les entreprises en général. On regarde aujourd'hui, franchement, les entreprises qui réussissent le mieux, c'est celles qui ont des marchés à l'étranger. C'est Air Liquide, Total, LVMH. Enfin, on peut en citer plein. C'est celles qui produisent pas le plus en
France. Qui n'ont pas tout leur chiffre d'affaires en France, vous voulez dire ?
Ouais.
Et vous pensez que c'est dû à nos normes, nos impôts, nos taxes
C'est dû à la politique, mais pas uniquement de Macron. Hein, depuis Sarko, ça a toujours été comme ça. On crée des hautes autorités, des hauts conseils, ça crée des fonctionnaires en plus, des hauts fonctionnaires, parce que quand je dis fonctionnaires, faut pas... Je veux pas mettre les policiers ou les infirmières.
Vous parlez de ceux qui sont à Bercy. Vous parlez de ceux qui sont à Bercy et qui décident des taxes et des normes, quoi.
Ouais. Et ces gens-là, faut les payer. Donc, on les paye comment? Parce que eux, en face de leur salaire, il y a aucune valeur ajoutée. Il y a aucune plus-value.
Ouais, pour vous, il faudrait carrément faire le ménage au sein de l'État, quoi.
Ah oui.
Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, vous étiez donc sur les routes, chauffeur routier, il réagissait donc depuis la Nièvre au propos de Bernard Arnault qui dit donc de la France qu'elle est en train de devenir un pays anti-entreprise. Il est 8h27 sur RMC, 21 bien sûr sur RMC et RMC Story. Dans un instant, je file du côté de BFM TV. Mon invité c'est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy très engagé sur la question iranienne. Il a d'ailleurs été ciblé par les autorités iraniennes. C'est le Washington Post qui révélait qu'il y avait eu une tentative d'assassinat contre Bernard-Henri Lévy par les gardiens de la révolution iranienne. Faut-il intervenir en Iran ? Sommes-nous en train de laisser tomber le peuple iranien ? Bernard-Henri Lévy dans un instant sur RMC et BFM TV. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes écrivain, philosophe, réalisateur. Votre dernier livre, c'était Nuit Blanche et surtout ce film Ukraine, notre guerre. Mais ce matin, ce que je voudrais, c'est surtout que l'on puisse parler de l'Iran. 30 000 morts au moins. Une situation d'attente. On a évidemment ce porte-avions américain qui est désormais positionné au large de l'Iran. Donald Trump qui menace, qui dit le temps est compté. L'Iran eux-mêmes qui disent qu'ils menacent de répondre, qu'ils ont le doigt sur la gâchette. Sommes-nous en train d'abandonner le peuple iranien ?
Ça change de jour en jour, mais pour l'instant, on l'a abandonné. On a laissé faire les 30 000 morts. On a laissé les femmes, les hommes, les jeunes gens descendre dans les rues et se faire massacrer à la mitrailleuse lourde. On a laissé des snipers depuis les toits viser à la tête. On a laissé se faire les exécutions dans les prisons. Donc, à l'heure qu'il est, à l'heure où nous parlons, on a laissé tomber les femmes et les hommes en révolte en Iran.
On les a déjà laissés tomber, c'est ce que vous dites.
On les a déjà laissés tomber. Les 30 000 qui sont tombés, qui sont morts, ils se relèveront pas. Voilà. Quoi que décide Trump, quoi que décide l'Union européenne, ceux-là, on les a laissés tomber.
Vous dites...
Ce massacre iranien est quelque chose, je ne sais pas si les gens mesurent les chiffres, 30 000 morts en quelques jours, c'est un record quasi absolu. Les seuls exemples dont je me souvienne d'un tel rythme de mort, 30 000 en quelques jours, c'est le Rwanda en 1994... record horaire mondial du massacre, et c'est avant, en 48 heures, Babi Yar, 33 000 dans la banlieue de Kiev, massacre de juifs. C'est très rare, 30 000 morts en si peu de jours, sous les yeux indifférents de la communauté internationale, sans manifestation, sans protestation, avec des chancelleries qui disent « on surveille, on monitore, on est vigilant ». Ça va coûter 30 000 morts. Voilà.
On est vigilants, disent les uns et les autres. L'Europe ne peut se dérober au rendez-vous historique qui lui est assigné en Iran. Voilà ce que vous écriviez il y a quelques jours, Bernard-Henri Lévy. On parle évidemment des États-Unis, on va y revenir. Faut-il qu'ils interviennent? Vont-ils intervenir? Quels sont les enjeux? Mais au fond, on n'arrête pas de dire en ce moment qu'on doit apprendre à se passer des États-Unis. Est-ce que c'est pas le premier rendez-vous européen aussi?
Bien sûr, c'est un rendez-vous pour les peuples libres en général. Donc, et c'est un rendez-vous pour qui veut, pour qui peut. Le peuple iranien, ils font pas la différence aujourd'hui. Ils disent pas, attendez, on veut d'abord savoir si c'est un républicain ou un démocrate. Ils veulent qu'on les sauve. Ils veulent que le bain de sang s'arrête. Ils veulent que ces criminels enturbanés, ces faux religieux, ces mafieux, ils veulent qu'ils quittent le pouvoir. C'est ça que demandent les 90 millions d'Iraniens aujourd'hui. Ils s'en fichent que ça soit Donald Trump ou pas Donald Trump. Ils veulent que ça s'arrête.
Avec évidemment cette question, on va y revenir, de l'ambivalence de Donald Trump sur la scène internationale. Lorsque vous citez ces enturbanés, il s'agit des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Hier, la France, pour la première fois, a dit qu'elle était favorable à l'inscription de ces gardiens de la révolution islamique en Iran sur la liste des organisations terroristes. Enfin.
Écoutez, c'est pas, ça fait des années que les gardiens de la révolution sont des terroristes. Rien d'autre. Ils gardent aucune révolution. Ils exportent le terrorisme et ils pratiquent le terrorisme à domicile. C'est leur métier. C'est la plus grande organisation terroriste du monde. Avec des filiales, des succursales qui s'appellent le Hamas, qui s'appellent le Hezbollah, qui s'appellent les milices, chiites irakiennes, qui s'appellent les Houthis. C'est ça les gardiens de la révolution. Alors enfin, c'est bizarre.
Qu'est-ce qui avait retenu jusqu'à présent la France de les qualifier de terroristes?
Ben j'en sais rien. Parce qu'écoutez, le président Macron a eu, il y a 3 ans et demi, un geste, un mot extraordinaire. Lorsque des femmes iraniennes, Massi Alinejad et d'autres, sont venues à Paris, à l'Élysée, le président Macron a dit « c'est une révolution ». Et ce mot-là était révolutionnaire. Ça devait être en octobre ou novembre 2022. Il a été le premier dirigeant occidental à dire « faites gaffe, soyez bien conscients, ce qui se passe en Iran est une révolution ». 3 ans après, on a encore un Quai d'Orsay, des diplomates qui en sont à se contorsionner avant de décider finalement de dire que c'est une organisation terroriste. Il y a quelque chose qui ne va pas là.
Donc il y avait presque une dichotomie à la tête de l'État, quoi.
Mais il y a toujours en
Apollinaire. Les diplomates sont trop prudents.
Il y a toujours en France, il y a toujours un appareil d'État qui s'appelle le Quai d'Orsay, auquel j'ai eu quelques fois affaire dans mon existence d'intellectuel engagé, et qui sont pas les plus audacieux, voilà, et qui n'ont pas toujours la plus grande idée de la France.
Et je précise, lorsque l'on parle de ces gardiens de la révolution islamique en Iran, que vous-même, Bernard-Henri Lévy, vous en avez été la cible. C'est le Washington Post qui avait révélé en 2022 que vous étiez personnellement ciblé par le pouvoir iranien pour des tentatives d'assassinat. Bernard-Henri Lévy, le fait que ces gardiens de la révolution islamique soient désormais sur cette liste des organisations terroristes, au-delà des mots, qu'est-ce que ça change?
Ça change déjà qu'ils vont se déplacer. Ils vont avoir un peu plus de mal à se déplacer. Ils vont avoir un peu plus de mal à, quand ils condamnent à mort un étranger, ils mettent une rançon, ils mettent un prix sur sa tête, d'accord? Et en général, ils l'honorent. Ça va rendre difficile le fait de payer les tueurs pour tel ou tel. Il y en a beaucoup des gens condamnés à l'étranger. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été exécutés à distance par des gardiens de la Révolution. Donc ça va leur rendre la vie difficile. Et si on va encore plus loin, parce que je crois que c'est ça qui est dans les tuyaux, et si on décide par exemple de geler les avoirs que les indignes dignitaires iraniens honte en Europe et à Paris, ça, je peux vous dire que ça va aussi leur compliquer sérieusement
l'existence. Et ça, il faut le faire.
Il faut le faire depuis des années.
Quand on en a les moyens, on peut le faire.
Mais bien sûr qu'on peut le faire. On le fait avec les Russes. On l'a fait avec les Russes. On est même en train de saisir leurs avoirs, ce qui est juste. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas avec les Iraniens qui ont sur les mains le sang de 30 000 innocents? C'est même pas une guerre. Moi, la guerre en Ukraine, ça fait 4 ans que je pense qu'à ça. Alors, je pas oui. Mais enfin, c'est au moins c'est une guerre. Il y a en face des hommes armés, vaillants, héroïques. En Iran, il y a des femmes, il y a des jeunes filles de 17 ans,
totalement,
il y a des enfants
désarmés, évidemment.
Désarmés, voilà.
Et qui ne peuvent effectivement pas répondre. Il faudra que l'Europe, dans son ensemble, décide de placer les gardiens de la révolution islamique sur cette liste. Mais en effet, la France a rejoint d'autres pays qui y sont favorables. Est-ce qu'il faut qu'en effet les États-Unis interviennent et comment ?
Oui. Est-ce qu'il faut ? Oui. Mais il faut pour une seule raison. Enfin, pour plein de raisons, mais une raison récente. Le président Trump, il y a 15 jours, a dit aux Iraniens et aux Iraniennes, allez-y les gars, continuez, prenez d'assaut les institutions, descendez plus que jamais dans les rues, l'aide arrive. Aid is on its way, for sure. Bon, alors, on peut pas dire ça, envoyer les gens au massacre, et puis ensuite rester les bras croisés et contempler le spectacle et voir comment ils se débrouillent, les petits gars, c'est pas possible. Les États-Unis, c'est aujourd'hui un devoir moral.
La responsabilité d'avoir dit « on arrive »
est considérable. Mais c'est une responsabilité rarement prise, d'ailleurs, dans les gens... En général, les diplomates sont plus prudents. Dire on arrive, si vraiment on arrive, c'est pour ça que moi je ne crois pas un instant à ce que j'entends que les Américains finalement reculeront. Ils peuvent pas reculer. Quand on dit on arrive, on doit arriver. Voilà, d'une manière ou d'une autre.
Donc d'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils interviennent. Mais cela dit, des bombardements, est-ce que vraiment ça pourrait libérer la population ?
Mais libérer, l'histoire a plus d'imagination que les humains. Donc on ne sait jamais comment une population finit par se libérer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que laisser cette population iranienne livrée à elle-même, attendre, comme je l'entends, j'entends des diplomates, j'entends des commentateurs qui disent ils doivent se libérer eux-mêmes, il faut que le fruit aille au bout de sa maturité, éventuellement même qu'il pourrisse et qu'il tombe. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est indigne. Quoi ? On ne sait pas quelle sera l'issue, mais aider...
En gros, leur dire débrouillez-vous ?
Débrouillez-vous, c'est dégoûtant. Aider, c'est juste quand on est une démocratie, quand on est face à des gens qui défendent les mêmes valeurs que nous.
Et en même temps, il y a eu effectivement la Libye et les résultats que ça a donné. Il y a eu des précédents.
La Libye, il y en a marre. La Syrie. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la Libye et pas de la Syrie ? Il y a la Libye, modèle de l'intervention... Ok, c'est pas terrible. La Syrie, modèle...
C'est pas terrible quand même.
Pas terrible. Bon. Modèle de la non... Oui, mais pas terrible pour des tas de raisons. Parce que justement, on en a sans doute pas fait assez. Mais la Syrie, modèle de la non-intervention. Modèle de la non-intervention. Modèle du « on se lave les mains » dans votre chair transformée en bouillie. On s'en lave les mains. Résultat... Pas 50 000 morts comme en Libye, 500 000, 600 000 morts. Résultat, pas quelques centaines de milliers de réfugiés, des millions de réfugiés. Résultat, des terroristes dans le monde entier.
La Syrie, on le rappelle, effectivement, à l'époque, ça n'était pas Trump, mais Obama qui, après avoir fixé des lignes rouges, un peu comme on dit, on arrive, finalement, ces lignes rouges franchies avaient refusé d'intervenir. Voilà. Daesh n'existait pas à l'époque.
Bien sûr.
On n'en était même pas là.
On n'était pas là, et c'est... cette attitude que je dénonçais tout à l'heure, son inventeur, c'est en effet Barack Obama, qui avait dit à Bachar al-Assad, attention, si vous utilisez les gaz, c'est la ligne rouge, le gars utilise les gaz, la ligne rouge est franchie, Barack Obama fait le tour du jardin de la Maison-Blanche, il rentre, il dit, finalement, je fais rien. Perte de crédibilité pour les États-Unis terrible, déception en Syrie abominable, et quelques battements de cils plus tard, 600 000 morts, pays détruit, et à l'arrivée, Al-Sharaf alias Jolani, c'est-à-dire un djihadiste au pouvoir à Damas,
avec
qui est
question...
en train de massacrer les Alaouites, les Druzes et les Kurdes.
C'est la question que j'allais vous poser, Bernard-Henri Lévy. La situation en Syrie est aujourd'hui préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment avec les Kurdes. Certes, un cessez-le-feu, mais fragile, a été signé.
Oui, mais l'important, hélas, c'est pas le cessez-le-feu. L'important, c'est les morts. L'important, c'est les quartiers kurdes dévastés par l'armée syrienne. Et l'important, c'est que l'armée kurde, les femmes kurdes combattantes, ces bataillons de femmes que je connais, que j'ai filmés, qui sont une avancée de civilisation formidable, parce que c'est la vraie égalité entre les femmes et les hommes, intégrées de force à l'armée syrienne de Jolani. C'est ça qui est important. C'est ça qui est moche. Important, c'est les prisons. Il y avait, au Kurdistan syrien, j'ai filmé cela avec mon ami Marc Roussel, on a des kilomètres de rush, les prisons de Daesh, des endroits, à Derik, par exemple, près de Kamishli, où il y avait des milliers d'assassins de Daesh emprisonnés, gardés par les Kurdes. D'accord? Gardés par les Kurdes. Bien gardés, avec des systèmes de sécurité. Aujourd'hui, dans certaines de ces prisons, les Syriens de Jolani ont pris le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les types se sont barrés, ils se sont enfuis.
Au vous avez des terroristes dans la nature. Il y a des djihadistes, y compris de nationalité française, qui ont été libérés. Est-ce que vous avez ces informations-là de ces prisons?
Oui, moi j'ai filmé des djihadistes français dans les prisons gardées par les Kurdes. C'est dans un de mes films qui est sur les plateformes qui s'appelle Une autre idée du monde. On les voit, les prisons. Les prisonniers français de Daesh. Ceux-là, dans la prison de Al-Hol, ceux-là, il est possible qu'ils soient aujourd'hui dans la nature. En train de chercher quoi? Peut-être une manière de refaire leur vie en Syrie, mais peut-être une manière de venir faire des Bataclans à Paris, je ne sais pas, ce qu'à Dieu ne plaise.
Et effectivement, la situation est extrêmement chaotique, en tout cas au moment où l'on se parle là-bas. La France qui est intervenue d'ailleurs en Syrie récemment, qui malgré tout continue de temps en temps à intervenir ponctuellement, faut-il qu'elle continue à le faire?
Mais bien sûr, on est dans une guerre mondiale aujourd'hui.
Dans une guerre mondiale.
Oui, une guerre mondiale, enfin une nouvelle sorte de guerre, avec d'un côté les démocraties, de l'autre des régimes autoritaires, des régimes impérialistes, des islamistes radicaux, des Russes, des gens de ce genre. Ben, il faut de toutes les manières qu'on peut s'opposer à ces gens-là. Il faut pas laisser Poutine, il faut pas laisser les islamistes radicaux, il faut pas laisser Jolani envoyer les gens de Daesh ou d'Al-Qaïda dont il voudrait plus nous les envoyer à Paris. Il faut tout faire pour empêcher ça. Empêcher ça, ça veut dire en effet avoir une diplomatie, pas une diplomatie comme on disait pliée en deux, mais une diplomatie active, fière, française, en Syrie.
Pendant ce temps-là, Bernard-Henri Lévy, on ne parle plus de l'Ukraine.
Ben oui, c'est terrible. Et vous savez, ça s'appelle soit la complexité de l'histoire, soit la diversion. Hein, ça peut être une diversion aussi. Le fait de multiplier
le Groenland, par exemple.
Groenland, stratégie de l'essuie-glace, une nouvelle chasse l'autre. Ben, le Groenland, tout le monde sait. Nous sommes tous comme des essaims d'abeilles. On va vers la lumière du Groenland et puis on parle plus de l'Ukraine. Aujourd'hui, il fait moins 25 à Kiev, des missiles sont tombés toute la nuit, un train de voyageurs pour la première fois a été frappé à Kharkiv ou sur la route de Kharkiv, et les Ukrainiens sont dans une situation de plus en plus, j'allais dire désespérée. Je crois qu'ils sont moins désespérés que les gars d'en face qui eux ont vraiment froid. Mais ils sont dans une situation de plus en plus terrifiante. Mener une guerre de résistance depuis 4 ans, avec pas assez d'armes, dans un état d'épuisement complet contre une des plus grandes armées du monde, dans ces conditions-là, honnêtement, j'aimerais pas être à leur place.
Bernard-Henri Lévy, vous aviez écrit sur la démocratie américaine. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui lorsque vous voyez notamment la police aux frontières ou ICE et la manière dont elle s'en prend aux étrangers sur les territoires américains?
Bien sûr. ICE, c'est une ignominie. Ce qui s'est passé, les deux meurtres de sang-froid sont une ignominie. Indigne de l'Amérique. Indigne, en effet, de cette démocratie américaine dont j'ai fait. Moi, vous savez, dans mes marottes, il y a une chose que je déteste, c'est l'anti-américanisme. Je pense que ça fait la haine de l'Amérique en soi. Hein, l'Amérique, des gens qui mangent trop, des obèses, des gens qui savent pas ce que c'est que tout ça. Pour moi, ça fait partie du pire du marais idéologique français. Mais je dois dire que ce qui se passe aujourd'hui sous cette administration, cette espèce de violence, de manière de s'en remettre à la force, à quelque chose qui me dégoûte quoi, voilà.
Qui vous dégoûte, vous oui. dites d'ailleurs, vous dites le mot meurtre. Un mot parce qu'il y a une polémique aujourd'hui, le Conseil d'État a engagé une procédure disciplinaire contre Arnaud Klarsfeld qui à propos interrogé sur les questions de Trump et de ICE a dit il faut organiser comme le fait Trump des sortes de grandes rafles un peu partout. Comment vous avez réagi à ce mot de rafle?
J'ai pas entendu ce mot-là, mais il est horrible. J'espère bien que cette France-là, la France de Voltaire, des droits de l'homme, la France qui a livré les Juifs en 42 et la France qui en a sauvé aussi quelques-uns, ne se laissera jamais aller à ce genre de tentation.
Un mot aussi sur des appels au boycott. LFI qui appelle au boycott, par exemple, du concert d'Enrico Macias à Romorantin. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses s'apaisent ou quand vous voyez ça, vous dites c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est désormais monnaie courante?
Ça non plus, je ne savais pas, mais c'est énorme et c'est pas un épiphénomène. Boycotter Enrico Macias. Franchement, il fait partie du patrimoine de la chanson française. C'est inqualifiable. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on? Quelle est la raison? Il est chef d'État. Il était soldat dans un théâtre de guerre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur qui on fait pression quand on boycotte Enrico Macias? C'est juste ignoble. C'est juste une provocation antisémite. Je sais pas qui. Je vous dis, c'est LFI proprement dit.
Oui. Ah
ben, c'est une provoque antisémite.
C'est une association appel lancé par LFI.
Provocation.
Le maire de Romorantin a défendu Enrico Macias. Il dit, dois-je rappeler qu'Enrico Macias est un instituteur français d'origine juive, né à Constantine en Algérie, dont le beau-père Raymond Léris, assassiné le 22 juin 61, était le créateur de la musique arabo-andalouse.
Ben, il a rappelé que c'était le fils d'un père d'un instituteur d'origine juive. Les mots sont là. Ça s'appelle l'antisémitisme. C'est abject.
Merci Bernard-Henri Lévy.
Et solidarité totale avec Enrico Macias, que je connais pas, mais que je trouve bien, bien sympathique.
Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, réalisateur. Votre dernier film, Ukraine, notre guerre. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bernard-Henri Lévy était mon invité ce matin et Dominique de Villepin tenait à réagir à cette interview.
Oui, bonjour Apolline de Malherbe. Quel bonheur d'entendre les chansons et l'œuvre d'Enrico Macias.
Oui.
Mais également d'entendre cet homme pleinement engagé, on l'a entendu dans cette interview, avec ce souffle, cette énergie, cette vision, cette sensibilité, cette envergure, ce panache. On dirait moi. Mais en moins bien.
Ah.
Bien sûr, Bernard Olivier a des circonstances atténuantes. Il n'a pas, comme j'ai pu le faire, occupé les plus hautes fonctions de l'État.
Oui, enfin, la grande qualité de Bernard Olivier, c'est aussi qu'il va sur le terrain.
Et de fait, c'est vrai qu'on sent. On sent très bien qu'on voit, qu'on sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, pardonnez-moi. Il a été en Ukraine, sur tous les terrains de guerre, au Kosovo, en Libye. Et c'est vrai que rien ne vaut d'aller sur place pour se rendre compte des choses par soi-même.
Oui.
Je le vis moi-même lorsque je vais sur le terrain au Café de Flore, chez Coste,
oui.
Parfois même dans des zones à risque, où vous sentez, regardez, pieds menacés lorsque j'ai franchi la porte de cet endroit, la taverne de Maître Cantet. Mais Bernard-Henri Lévy et moi, pardon, moi et Bernard-Henri
oui.
Lévy,
mieux, là.
Nous sommes témoins de ce monde, des grands témoins de ce monde. Il est cinéaste, il fait des films, et moi aussi quelque part pour 2027. Je me fais des films.
Merci Dominique de Villepin. Avec Bernard-Henri Lévy, nous avons parlé des Iraniens qui ont le soutien de nombreux politiques français. Laurent Wauquiez, vous souhaitiez réagir?
Qui, madame de Malherbe?
J'adore quand vous faites Laurent Wauquiez.
Pourquoi vous faites une bouche de Donald? Je vous ai vu. Qui ne serait pas touché, revenons sérieux, par les propos que nous venons d'entendre sur l'Iran? Mais pardon, avant toute chose, je voudrais dire bonjour, ou plus exactement, Salam alaikum les royas. Car vous le savez, je parle arabe. Oui, dès que je vais sur un plateau, je le dis à tout le monde, parce que j'ai cette qualité, je parle arabe. Oui, Salam alaikum à tous nos amis du peuple iranien, glorieux combattants de l'islam. Mais je le précise, de l'islam gentil.
L'islam gentil.
Oui, l'islam gentil. C'est les musulmans qui manifestent contre les mollahs de l'islam qui eux sont des musulmans méchants.
Ah oui.
Vous voyez, c'est pas compliqué la géopolitique. C'est comme dans la vraie vie, vous savez, Madame de Malherbe. Il y a les gentils et méchants. Voilà. Et nous devons soutenir les musulmans gentils, ceux qui n'aiment pas le voile, ceux qui ne sont pas terroristes. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des musulmans comme ça, des gentils. Ça change un peu d'habitude. Voilà la Radine.
La Radine, vous êtes un peu caricaturale quand même.
Non, mais attendez. La gens mécontente. Quand je dis du mal des musulmans, alors vous trouvez ça caricatural. Et quand j'en dis du bien, vous trouvez ça aussi caricatural. Faudrait savoir, Madame de Malherbe.
Oui, c'est vrai. Merci, Laurent Wauquiez.
Oui, l'enchaînement est un peu pourri.
Je vous dis, j'adore quand vous faites Laurent Wauquiez. Ce matin, Stéphane Bern est avec nous pour les titres.
Non, je peux revenir, si vous voulez.
Ah oui, avec plaisir.
Oh non, laissez-moi la place. Poussez-vous de chez moi. Oui, bonjour Apolline. Et bonjour à tous les nobles courtisans assis autour de la table où ils sont là. Et ainsi qu'aux gueux et aux roturiers qui sont debout au fond là-bas. Allez, c'est parti pour les titres. Crise à CNews, on se régale. Après que Sonia Mabrouk, Pascal Pro et Laurent Ferrari ont pris leur distance avec Jean-Marc Morandini, ce dernier aurait déclaré que si tous les adultes continuent comme ça à s'éloigner de lui, il ne faudra pas s'étonner qu'ils soient obligés de se rapprocher à nouveau des enfants. Et puis Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée les premiers ministres danois et groenlandais. Et le président tenait à nous apporter quelques précisions sur cette rencontre. Yeah. Oui, c'est bon la musique. Oui, non, je me régale. Oui, mais écoutez, ça c'est, puisque vous ne posez pas la question, je vais vous répondre. Ça s'est bien passé. J'ai rencontré donc la première ministre danoise, Madame Chris Pauls, également le premier ministre groenlandais, Monsieur Stimorol, qui sont venus bien sûr avec leurs ministres respectifs, Carlsberg, Bang et Olufsen. Oui. Alors, j'aurais réaffirmé tout mon soutien. Enfin, c'est plutôt Brigitte qui l'a fait. Elle leur a dit, si Trump essaye encore d'annexer le Groenland, on va le foutre dehors, ce sale con. Bon, ok, c'est un peu direct, mais il faut avouer que ça a eu beaucoup plus d'impact que quand c'est mon ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui intervient.
Merci, monsieur le président. Reprenez, Stéphane Bern.
Oui, tout ça pour ça. Alors, allez, on reste au Quai d'Orsay, où justement le ministre des Affaires étrangères cherche son futur consul au Groenland. Alors, je vous le dis tout de suite. Non, ce ne sera pas moi. Non, les endroits paumés avec 3 habitants dont on ne comprend rien ce qu'ils disent. Pardon, mais j'ai déjà donné avec mon émission le village préféré des Français. Pardon. Notre ami Nelson Montfort souhaite postuler, je crois.
Non, écoutez, mon cher Stéphane, merci de soupçonner que j'aurais toutes les compétences pour être consul au Groenland. C'est vrai que j'ai passé près de 30 ans à commenter des gens qui chutent sur la glace, et s'ils prenaient l'envie de Donald Trump de mal se comporter avec le Groenland, pareil, après 30 ans à côtoyer Philippe Candeloro, j'ai une solide expérience avec les personnes au vocabulaire limité qui tiennent des propos déplacés.
Merci à tous. Et puis dans l'affaire Morandini, c'est au tour de Philippe de Villiers de prendre ses distances avec Jean-Marc Morandini.
Vous rendez compte, ma merde, monsieur Marshall. Demandez, monsieur de Manchel, oui, d'Orangean, tout le bordel. Vous rendez compte, ma merde, demandez des photos dénudées à des adolescents imberbes. C'est totalement déplacé. Ne doit pas faire ça, tout le monde le sait. C'est le rôle du curé de la paroisse. Il faut respecter le sacré.
Bien sûr, Jordan Bardella a interdit aux membres du Rassemblement National de se rendre dans les émissions de Jean-Marc Morandini.
Évidemment, du coup, ça a changé un peu la ligne éditoriale de l'émission. Comme invité, il va falloir qu'ils se rabattent sur des gauchistes comme Bruno Retailleau ou David Lisnard. Notez que si Sonia Mabrouk nous quitte, si les élus RN nous quittent sur CNews, si peut-être aussi Jean-Marc Morandini nous quitte, il y aura toujours une solution pour l'antenne de CNews. Au lieu de Morandini Live, ben évidemment, ce sera De Villiers Live.
Ouais. Hein.
Puis après, ensuite, l'heure des pros De Villiers.
Ah oui.
Le face-à-face De Villiers, ouais. 100% De Villiers.
Ouais.
Bon, ça, c'est juste le matin.
D'accord.
Et puis après, l'après-midi, je repartirai au Mastic avec le super De Villiers Show. Ça, c'est un grand remplacement cas de la gueule, non?
Merci Nicolas, passe à Cantou, que l'on retrouve donc Tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast dans un instant. Les GG, quel est le programme, Alain ?
Eh bien, dans les grandes gueules, puisque nous avons une enseignante, de quoi parlerons-nous ? De la suppression des postes d'enseignants dans les GG. Dans les grandes gueules, est-ce que c'est justifié par la baisse du nombre d'élèves dans les classes ? Vous viendrez en parler avec nous au 32-16. On évoquera la colère des policiers aussi qui appellent à manifester samedi. Ils appellent les Français prêts à descendre la rue pour soutenir les policiers et leurs conditions de travail. Et puis nous recevrons Marion Maréchal. À tout de suite avec les GG en direct jusqu'à midi.